Êtes-vous un incorruptible, une incorruptible? Quand on pense à ce nom incorruptible, certains vont peut-être se rappeler de ce film, de cette histoire des policiers de Chicago pendant la Prohibition qui luttaient contre Al Capone et sa bande et tous ceux qui faisaient le trafic d'alcool et qui ont vaincu finalement parce qu'ils n'ont pas accepté de pot de vin, c'est le cas de le dire. Ils ont refusé d'être corrompus et ils ont continué la lutte jusqu'à ce que Al Capone soit vaincu. Et c'est une bonne image de ce que Dieu veut pour nous si nous sommes chrétiens. Il veut que nous soyons un incorruptible par rapport au péché et aux tentations. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, au lieu d'être incorruptibles, sont très faibles. À la moindre tentation, ils succombent. Et je pense aussi à la jeunesse qui est tellement attaquée, attirée par les lumières de ce monde, la jeunesse chrétienne aussi, qui a beaucoup de mal à vivre une vie pure. J'aimerais lire dans la parole de Dieu ce verset qu'on trouve dans le Nouveau Testament, épître de Paul aux Philippiens, 2 verset 15. Philippiens 2, verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Ici, dans ce verset, il parle d'une race de personnes, si on peut dire, qui sont irrépréhensibles, irréprochables, purs, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et on se dit, mais c'est ça qui est le plus difficile. Quand vous êtes dans un milieu pur, c'est facile de rester pur. Quand vous êtes dans un milieu décadent et immoral et impur, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, le Seigneur, là, veut qu'on soit des chrétiens incorruptibles. C'est sa volonté. Quand le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas pour qu'on continue dans le péché. Le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas juste une couverture morale qui dit « maintenant je suis un quelqu'un de pieux, de bigot ». Non, le salut en Jésus-Christ, c'est non seulement qu'on est pardonné de nos fautes, passées, présentes et futures, mais qu'on est délivré de la puissance du péché. Sinon, l'évangile ne vaut rien. Si on est un chrétien, comme on appelle le chrétien frustré, le chrétien frustré, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne doit pas pécher, mais qui a beaucoup de mal à s'en empêcher. C'est-à-dire, il vit en tension permanente. Il dit, oh, faut pas que je fasse ça. Dieu ne veut pas, la Bible dit, l'Église m'a dit qu'il ne faut pas le faire. Mais j'aimerais tellement le faire. Et vous êtes dans ce combat horrible. Et finalement, on finit par être hypocrite. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans les églises et dans les religions en général. Parce qu'on n'est pas délivré du mal, on est frustré. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur cette croix, quand il est ressuscité, c'était pour en finir avec le péché. Et pour nous donner une force nouvelle face aux tentations. Il ne faut pas qu'on soit comme Démosthène, cet homme politique grec du temps d'Alexandre le Grand. Il était connu pour être un grand orateur, mais aussi pour être un homme incorruptible. Et il était vénéré par le peuple d'Athènes notamment. Ça, c'est quelqu'un, c'est un vrai homme politique. Hein. On cherche aujourd'hui des hommes politiques honnêtes, n'est-ce pas ? Qui ne se laissent pas acheter, qui ne vendent pas leur âme pour une place quelque part. Et Démosthène était de cette trempe jusqu'à ce que la tentation lui passe sous le nez. Un jour, il y avait un ennemi d'Alexandre qui a spolié les biens d'un grec, d'un riche grec d'Athènes. Et Démosthène, voyant la spoliation, voyant qu'on volait cet homme, hein, l'État lui prenait toute sa fortune et le mettait en prison juste parce que c'était un ennemi, Démosthène était prêt à intervenir, à monter à la tribune, à l'Aréopage, par exemple, il y avait l'Aréopage à cette époque, comme on le trouve dans le livre des Actes, et à dire « c'est scandaleux, il faut arrêter ce scandale ». Et tout le monde craignait quand Démosthène allait à la tribune, parce que le peuple le soutenait. Mais Démosthène a fermé sa bouche ce jour-là, parce que celui qui a volé le grec, qui s'appelait Harpalus, lui a donné une coupe, une magnifique coupe comme ça, remplie d'or. Il y avait de l'or dedans, sous toutes ses formes, de 20 talents. 20 talents, à l'époque, ça valait une fortune. Une immense fortune. Et Démosthène a accepté cette coupe. Il avait un prix, comme on dit. Il avait une limite à son incorruptibilité. Et il a fermé sa bouche et il a vécu avec ça toute sa vie, puisqu'on l'a accusé plus tard d'avoir accepté un dessous de table, comme on dit, pour se taire. Il faut être plutôt comme Ulysse, puisqu'on va être dans les Grecs. Le fameux héros, alors imaginaire, de l'Odyssée d'Homère. Ulysse qui parcourait valeureusement le monde, et il était sur son bateau, et il passe devant la fameuse île aux sirènes. Et il sait que les sirènes ont un chant si extraordinaire qu'elles vous attirent vers elles. Vous allez vers elles avec votre bateau, et puis vous vous écrasez dans les rochers. Et Ulysse, sachant ça, a demandé à tous ses hommes de se boucher les oreilles. On a appris ça à l'école, si on a suivi ces cours-là. Et ils ont passé le cap des sirènes sans être attirés par elles. Il s'est bouché les oreilles. Il n'a pas essayé de lutter à main nue contre les sirènes. Il était plus humble et plus intelligent que ça. Il a dit, on se bouche les oreilles, elles ne pourront pas nous atteindre. Ça ressemble plus au chrétien que Dieu veut. Un chrétien qui a déterminé dans son âme qu'il ne se laisserait pas corrompre. Il y a une idée de détermination, de volonté d'être pur. Or, cette volonté est en train de disparaître. Être pur, on dit, mais ça doit être profondément ennuyeux, ça doit être des gens... Parce qu'on a cette image fausse d'une sainteté bigote, d'une sainteté complètement étroite d'esprit et, vous savez, pâle... quelqu'un qui est jamais un sourire, jamais de joie, parce que la joie, ça peut être impur. Mais la sainteté, la vraie sainteté est joyeuse. La vraie sainteté est merveilleuse parce qu'elle est empreinte d'amour. Et il ne faut pas se laisser avoir par les fausses images. En tout cas, ce que Dieu veut, c'est qu'on brille au milieu d'une génération corrompue. C'est vrai que c'est difficile quand on est dans un monde à la dérive morale de rester pur, parce que plus vous restez pur, plus on se moque de vous, plus on dit « Oh là là, quelle étroitesse, quelle personne qui n'évolue pas avec son temps, il faut évoluer un peu, il faut être progressiste, je ne sais pas quoi. » Mais le chrétien, il ne se base pas sur les modes, sur ce que le monde accepte ou pas, chrétien, il se base sur la parole de Dieu. Et il détermine dans sa vie que le péché ne passera pas, que le péché ne gagnera pas. Bien sûr, ce n'est pas seulement une question de détermination, on le verra, sans la présence de Dieu dans notre vie, on n'arriverait pas. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu veut qu'on soit pur. Et j'aimerais vous lire maintenant ce verset étonnant de l'épître de Jude. C'est tout près de l'Apocalypse. Épître de Jude, verset 24. Il n'y a qu'un seul chapitre. Jude écrit, en concluant sa lettre à des chrétiens, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Jude voyait plus loin que sa petite vie. Il voyait le plan de Dieu pour sa vie. Le plan de Dieu, c'est de nous préserver de toute chute. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de foi par rapport à ce verset, parce qu'on dit de toute chute quand même, c'est beaucoup. Ça arrive qu'on chute quand on est chrétien. Mais ce que Dieu veut, c'est nous préserver de chaque chute. Et ça peut être possible si on marche avec Dieu. Il y a un journal chrétien en Amérique, un magazine, qui a fait un sondage et qui a demandé aux chrétiens de notre siècle quelles sont les plus dures, les plus grandes tentations auxquelles nous faisons face. Et dans l'ordre, il y avait le matérialisme, l'orgueil, l'égocentrisme et la débauche, l'immoralité, etc. Et les chrétiens, je pense, ont été sincères en parlant de ça. Ils n'ont pas parlé du pouvoir, parce que tout le monde n'aime pas le pouvoir, mais il y a des gens pour qui c'est une très grande tentation de dominer. Hein. L'amour de l'argent, on le retrouve dans le matérialisme, hein, qui est au début. Et c'est vrai que, autant les premiers chrétiens, ils devaient faire face à des persécutions physiques, et dans certains pays, c'est encore le cas. On a parlé de ce pasteur iranien qui est condamné à mort. Il faut parler aussi de la Somalie, du Soudan, où les musulmans s'acharnent violemment contre les chrétiens, etc. Mais aujourd'hui, notre pire tentation, c'est le monde, c'est le matérialisme. C'est d'avoir plein de choses de convoiter et d'être dans le matérialisme et d'oublier que nous avons une âme. D'oublier qu'il y a des choses éternelles, qu'un jour on va mourir. Je suis frappé par le nombre de personnes dans notre pays qui ont oublié qu'on va mourir. Ils vivent comme si on n'allait jamais mourir. Et on leur dit, mais qu'est-ce que vous faites de votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à la mort? Je verrai bien quand ça arrivera. Oui, mais on ne sait pas quand ça arrivera. Et je pense qu'on ne sera pas prêt si on se prépare de cette façon, en disant, je verrai bien. Je sais bien qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le dernière minute. Hein, même les gens prennent leurs vacances avec lastminute.com ou je ne sais pas quoi. Mais j'aimerais vous dire que l'éternité, ce n'est pas lastminute.com. Hein. Il faut se préparer avant la mort. Il faut se mettre en règle avec son Créateur. Il faut réaliser qu'on est une âme éternelle et qu'un jour, il nous sera demandé des comptes. On va nous demander des comptes. Et je crois que c'est ça qui provoque aussi la rébellion quand on n'est pas chrétien. Quand j'étais athée, je pense que si on me disait « un jour tu vas rendre des comptes », ça m'aurait fâché. Vraiment, ça m'aurait fâché. Pourquoi ? Parce que quand vous savez que vous n'êtes pas en règle, vous n'aimez pas qu'on vous dise « un jour il va falloir rendre des comptes ». Parce que ça vous pique, hein ? Ça vous aiguillonne. Mais qui va me demander des comptes? Et puis, qui est-il pour me juger? Et puis moi je suis bon, je suis gentil, blablabla. On essaye de se défendre. Mais nous avons une âme qui va devoir rendre des comptes. Et le chrétien peut suivre un peu cette tendance de mondanité, c'est-à-dire de ne penser qu'à sa vie terrestre. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Où est-ce que je vais aller en week-end? Où est-ce que je vais aller en vacances? Des choses terrestres, matérielles, qui vont disparaître quand on va mourir. Le Seigneur nous appelle à des choses bien plus élevées, plus passionnantes. Aimer son prochain, aimer Dieu, partager la bonne nouvelle avec ceux qui ne la connaissent pas. Servir le Seigneur, être pur dans un monde impur. Personnellement, j'aime bien ce défi, parce que c'est vraiment un défi. Et je crois que si j'étais jeune aussi, j'aimerais entendre ce défi. Tu peux être pur dans un monde impur. Tu n'es pas obligé d'être en conformité avec le monde. Tu n'es pas obligé d'être un mouton qui suit les autres vers l'abattoir. Tu peux être une brebis intelligente qui dit « Mais ce n'est pas parce que les autres le font que moi je vais le faire ». Ces temps-ci, il y a des journalistes qui vont enquêter sur la jeunesse française, notamment les adolescents, et ce qu'ils découvrent est effrayant. Mais même, je pense que des fois, on n'imagine pas ce qui se passe. Une des choses dont ils ont parlé, et je ne vais pas m'étendre dessus, rassurez-vous, ce sont les soirées SAD, S-A-D. Déjà, ça veut dire « triste » en anglais. Mais ce sont des soirées, SAD, ça veut dire « sexe, alcool, drogue ». Voilà le thème de la soirée. Organisée par des adolescents de 16 ans. Il y a des dealers de drogue qui viennent, qui sont invités, qui vendent de l'héroïne, du cannabis, des pilules, tout ce que vous voulez. Et je ne parle pas du sexe, là. Et les parents ne se doutent même pas de ce qui se passe. Hein. L'enfant dit « Oh, je vais à une soirée avec des amis. Ah, bah, super. Très bien, amuse-toi bien. » Et si vous avez une fille, surtout, hein, vérifiez bien où elle va. Vérifiez bien où elle va. Même la police ne s'intéresse pas trop. C'est des soirées un peu bourgeoises, souvent. Chacun paye son ticket. C'est organisé sans aucune sécurité, sans aucune surveillance. Mais c'est Sodome et Gomorre, hein, Paris. Hein. On y vient, là. On y vient. Quand la jeunesse est corrompue, comme ça, dévoyée. Et il nous faut vraiment prier pour les jeunes. Il faut atteindre ces jeunes. Parce que si on vient leur parler du Seigneur, d'avoir une vie pure, ça ne leur plaît pas du tout. Hein. Non, moi, ce que je veux, c'est de la débauche. Je veux me prendre une cuite totale. Hein, parce que l'alcool aussi, ça vient de l'Angleterre, mais ça, c'est en France aussi, de boire quand on est lycéen. De boire énormément d'alcool quand on est lycéen. Et de boire vite de l'alcool fort, hein, de la vodka ou du whisky, de boire une demi-bouteille en quelques minutes pour vraiment perdre conscience jusqu'à ce que certains meurent. Hein. Il y a un certain nombre de morts par alcoolétilisme chez des lycéens. Sans parler de ceux qui se tuent en voiture ou de ceux qui ont deviennent handicapés mentaux ou psychiques à cause de toutes ces drogues. Ça, c'est la réalité de notre société. Il ne faut pas essayer de dépeindre notre société comme tout va bien, tout est merveilleux. C'est ça, la réalité. Nous, peut-être qu'on est protégés un peu. Hein. C'est certain, j'espère. Mais nos jeunes ne sont pas forcément protégés quand ils vont au lycée, à la fac, quand ils vivent. Et on ne peut pas mettre une caméra sur eux. On ne va pas les fliquer. Hein. Ce n'est pas ça, le but. Et il faut qu'ils comprennent que Dieu veut nous garder purs. Pourquoi ? Parce que le péché fait des ravages. Et j'aimerais parler quelques instants de tentation. Quand le tentateur nous propose quelque chose, d'abord, il nous le présente d'une façon faussée. Il nous dit, regarde, je te propose quelque chose d'interdit. Et quand on vous dit ça comme ça, on dit, oh, c'est interdit. Du coup, ça m'intéresse. Quand j'avais mon site web avec des articles sur la Bible, j'avais mis un petit bouton sens interdit, hein, la forme d'un sens interdit, et c'était marqué « ne pas entrer ». Les premiers visiteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Plouf, ils cliquent dessus immédiatement. Ils voient un sens interdit « ne pas entrer ». Je veux savoir. Qu'est-ce qu'on me cache ? Qu'est-ce qui est interdit ? Pourquoi il ne faut pas entrer ? Et ça, c'est la nature humaine. Hein ? Si on vous dit c'est interdit, vous avez envie d'y aller. Et ça a commencé dans le livre de la Genèse avec Adam et Ève. Dieu a dit, vous ne mangerez pas de ce fruit, sinon vous mourrez. Et quand le serpent est venu dire, mais pourquoi on vous interdit de manger ce fruit ? En fait, ils étaient remplis d'envie, ils voulaient le goûter. La deuxième chose que fait le tentateur, c'est qu'il ne nous dit pas les conséquences de notre acte quand on pêche. Il nous dit, prends ce fruit et tu verras, il ne se passera rien de grave. Même au contraire, ça va être formidable. Prends cette pilule et tu vas voir, tu vas partir dans des paradis artificiels. Bois cette bouteille de vodka et tu vas voir comment on se sent. On se sent tout bizarre, c'est vraiment rigolo. Oui, c'est rigolo pendant 2 secondes. Hein. Mais quand vous commencez à vomir et à tituber et à tomber par terre, c'est moins rigolo. Mais le tentateur nous présente toujours le péché d'une façon enjolivée, sans nous montrer les conséquences. Or, le péché a des conséquences catastrophiques. Pas simplement pour nous, mais pour ceux qui nous sont proches. Le péché touche nos proches. Je pense pour un chrétien, votre famille sera touché par vos péchés, sera souillé, influencé par vos péchés. Si vous êtes un adulte, vos enfants risque de vous suivre. Ça va avoir des conséquences sur notre témoignage chrétien, encore une fois, si nous sommes chrétiens. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce chrétien qui, d'un côté, il a des belles paroles, et de l'autre côté, on voit bien qu'il aime plus le péché que son Dieu. Et c'est étonnant, il ne faut pas se laisser prendre par les discours des non-chrétiens. Quand vous êtes pur, quand vous dites « Ah non, moi je ne fais pas ce genre de choses », on se moque de vous. On dit « Oh, regarde-le, ah, tu veux être prêtre ou quoi, et tu vas nous faire la messe, etc. Bon. » Et mais quand vous êtes chrétien et que vous tombez dans une tentation, alors là, il vous dit « Ben alors, le chrétien, tu te laisses aller là ?» Donc, vous ne gagnez jamais. On ne peut pas gagner, donc il ne faut pas chercher à gagner. Il faut faire ce que Dieu demande. Et si vous êtes entouré de gens qui vous amènent vers le péché, je pense dans les bureaux par exemple, ça peut être des gens qui calomnient, qui critiquent en permanence. Si vous êtes chrétien, vous pouvez dire « Écoutez, moi, je vous aime beaucoup, mais je ne rentre pas dans ces conversations. » Ou des personnes qui disent « Tiens, écoute, on va trafiquer les chiffres, on va se mettre un peu dans la poche, on va… » Désolé, je ne mange pas de ce pain. Et même si la pression est forte, si on vous menace, il faut rester incorruptible pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le bien de ceux qui nous environnent. Parce que votre présence et votre choix, votre détermination va influencer même les gens qui vous entourent, pour le bien. Je pense aussi que le péché et la chute a des conséquences sur notre Église, évidemment. Une Église où les chrétiens sont faibles, sont sales, on peut dire, hein, ne marche pas avec Dieu, est une Église qui aura un témoignage faible aussi, et même peut-être négatif. Et on ne vit pas que pour soi-même, dit la Bible, hein. On peut se dire, mais moi, le péché, ça ne concerne que moi. Non. Le péché a des conséquences autour de nous. Bien sûr, on dit oui, mais la tentation est trop forte. C'est plus fort que moi. Quand la tentation est là, je ne sais plus quoi faire. Je ne peux que plonger la tête la première. Hein, je n'arrive pas à résister. Et ne pensez pas que je ne sais pas ça. Tout être humain digne de ce nom, malheureusement, a vécu ça. Lorsque la tentation arrive, on est souvent pris, c'est trop fort. Pourquoi ? Parce que le tentateur, quand c'est Satan lui-même qui nous tente, nous prend dans notre point faible. Bien sûr, si les religieuses au chocolat ne vous tentent pas, vous pouvez regarder des religieuses au chocolat et dire « non ». Il ne va pas vous mettre une religieuse au chocolat sous le nez. Mais par contre, si vous aimez les millefeuilles, il va vous mettre un millefeuille sous le nez pour que vous gaviez de millefeuilles. C'est un petit exemple trivial, mais pour dire que le tentateur choisit notre point faible. Et on a tous des points faibles. Démosthène, il avait un prix. Hein. On pouvait l'acheter quand on lui donnait 20 talents d'or. Là, il perdait son courage et son incorruptibilité. À nous de nous connaître et de dire, voilà, ça c'est un domaine où je suis faible. Ça c'est un domaine où quand la tentation vient, je chute. À tous les coups. Et plutôt que d'être fataliste et de dire, ben c'est comme ça, il y en a qui chutent là, moi je chute là, il faut maintenant mettre sa foi en action. Qu'est-ce qu'on a lu dans Jude 1, verset 24 ? À celui qui peut vous préserver de toute chute. Seigneur, il y a ce domaine-là, tu peux me préserver. Mais quand Dieu dit qu'il peut, ce n'est pas de la théorie, c'est qu'il veut aussi, hein, il va. Mais est-ce que nous avons assez de foi et de courage et de détermination comme les incorruptibles pour dire « Seigneur, je veux vaincre par ta grâce ce péché ?» Parce que chaque fois qu'on a un péché dans notre vie, c'est un pied-à-terre pour d'autres choses. Un péché mène à un autre. Le péché ne s'arrête pas, on ne peut pas le contenir, on ne peut pas l'isoler. Parfois, on essaie de faire ça avec les virus. Hein. On les met en quarantaine, on fait une isolation pour que le virus ne contamine pas d'autres. Mais le péché est un virus extrêmement virulent. Et vous ne pouvez pas dire, « Ah ben moi, j'ai ce péché-là, voilà, et c'est tout. » Et ça s'arrête là. Et je le tolère, je le contrôle, il ne va jamais plus loin. Non. parce qu'un jour, il va aller plus loin, c'est certain. Il va mener à un autre péché. Je pense toujours à ces grands séquoias qu'on trouve en Amérique du Nord. Et un jour, il y a un promeneur qui allait dans cette forêt et il entend un immense bruit, mais vraiment un bruit d'effondrement. Et il voit un séquoia qui s'effondre comme ça, d'un seul coup. Il se dit, tiens, il y a des bûcherons ou quelque chose. Et puis, quand il s'approche, il voit que c'est quasiment de la poussière. Et en fait, il y a un insecte qui ronge le séquoia de l'intérieur. Et pendant des années, cette colonie va ronger l'intérieur de l'arbre. Et quand vous voyez l'extérieur, il a l'air comme les autres, exactement pareil. Mais si vous faites ça, le séquoia de 40 mètres va tomber. J'exagère un peu, mais un jour, il va tomber. On s'est rappelé plutôt les attentats du 11 septembre 2001, les fameuses tours qui se sont effondrées. On s'est dit, mais comment des tours aussi immenses ont-elles pu s'effondrer en si peu de temps, en 2 heures à peu près? Au point que les complotistes ont dit, elles ne se sont pas effondrées toutes seules, ils ont mis des charges explosives dedans, c'est les Américains et les Israéliens qui ont fait ça pour pouvoir ensuite faire la guerre. Blablabla. Je n'entrerai pas du tout là-dedans parce que, pour moi, ça ne tient pas debout, mais ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'ils ont découvert qu'il y avait un défaut de construction à cause de l'avarice des hommes. Ceux qui ont construit ces tours, lorsqu'on leur a montré les plans, on leur a dit, voilà, c'est du métal. Tout est en métal avec du verre dessus. On leur a dit, le métal doit être recouvert d'une matière qui le protège du feu. Vous avez plusieurs épaisseurs possibles. Si vous mettez 5 cm, ça va durer 6 heures, c'est-à-dire ça va supporter le feu pendant 6 heures. Si vous mettez 3 cm, ça va être 3 heures. Si vous mettez 1 cm, ça va être 1 heure. Qu'est-ce qu'ils ont choisi d'après vous? 1 cm. Et les ingénieurs qui ont fait l'enquête après, ils ont découvert ce fait. On a voulu leur cacher, ils ont été menacés, les papiers ont été cachés, ils ont dû courir après, ça a été très difficile, mais ils ont découvert une des raisons de l'effondrement rapide de ces tours, l'avarice. Ces tours étaient fragiles. Et vous savez, il y a des chrétiens comme ça. Des chrétiens qui ont l'air solides de l'extérieur. Mais d'un seul coup, un jour, ils s'effondrent. Parce qu'ils ont laissé la faiblesse s'introduire, le péché, les tentations. Ils se sont dit, oh, jusque-là, ça va. Souvenez-vous de Samson dans l'Ancien Testament. Jusque-là, je m'en suis tiré, dit-il. Parce que chaque fois, il allait voir les ennemis et il les battait, mais aussi, il couchait avec des prostituées des peuples ennemis. Et les prostituées essayaient de lui tirer les vers du nez. D'où vient ta force? Comment on peut te vaincre? Alors lui, il inventait des raisons. Et puis chaque fois, ça ne se passait pas bien. Et puis un jour, il a dit la vraie raison. Si on me coupe les cheveux, je perds ma force. Et en disant ça, il s'est dit, de toute façon, je vais m'en tirer comme les autres fois. Sauf que cette fois-là, il ne s'en est pas tiré. Il a été enchaîné, on lui a crevé les yeux et il est mort aux mains de l'ennemi. Même si il est revenu à Dieu au dernier moment. Il y a des chrétiens Samson qui disent, moi je gère, je contrôle le péché. Non, il y a un jour vous allez vous effondrer, ça va être une catastrophe terrible qui va avoir un impact. Quand les tours se sont effondrées, ce n'est pas juste la tour qui a fait un problème, c'est tout le quartier qui a été dévasté. Plusieurs milliers de morts. C'est pour ça qu'il faut être irréprochable, pur. Bien sûr, ce n'est pas toujours ce qu'on recherche, mais c'est ce que Dieu veut parce que Dieu est saint. Dieu est pur. En 1 Corinthiens 1, verset 8, et je terminerai avec cela. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Il vous affermira, donc il parle de Dieu, de Jésus-Christ, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il vous affermira jusqu'à la fin. Dieu, lui, est là jusqu'à la fin pour nous garder purs, nous préserver de toute chute. Lui, il n'abandonne jamais. Il vise le plus haut pour nous, d'être des flambeaux dans ce monde, qu'on soit des personnes qui brillent, pas simplement par leur intelligence, n'est-ce pas, mais parce qu'elles sont pures dans, un milieu corrompu, parce qu'elles sont justes dans un milieu malhonnête et inique. Hein. Maintenant, s'il y a des jeunes ici qui m'écoutent, il y a aussi votre part. Votre part, c'est de faire ce choix. Dire, Seigneur, je veux être pur. Il y a des jeunes qui disent, je veux me garder jusqu'au mariage. Je ne veux pas avoir de relation avant le mariage. Il y a des jeunes qui disent, je ne veux pas aller dans les soirées où il y a de l'alcool. Je refuse. Si je vois une bouteille d'alcool, je tourne les talons. Je m'en vais. Et je demande à l'avance si possible. Je ne veux pas mettre les pieds dans une boîte de nuit parce que je sais comment ça finit. Alors on peut dire, oh là là, mais alors quelle vie vous allez leur donner à ces jeunes? Ils ne vont jamais s'amuser. Non. C'est pas ça les vrais amusements. C'est pas là qu'il y a la vraie joie. C'est dans d'autres choses. Et il y a aussi la vraie joie quand on est en train d'aider les autres à comprendre le salut. Je me souviens quand j'étais nouveau converti, j'avais 19 ans, et que je témoignais autour de moi, c'était exaltant, je trouvais ça extraordinaire. Je me disais, enfin je suis utile à quelque chose. Enfin je ne suis pas là juste à chercher à m'amuser, à me plaire, à séduire ou à je ne sais pas quoi. Je m'oublie et je sers à quelque chose. Je peux éclairer les autres personnes qui sont dans les ténèbres, et souvent des profondes ténèbres, hein, d'angoisse, de culpabilité, de perdition, de corruption. On peut servir à quelque chose. Mais pour ça, il faut être pur. Et ne dites pas, c'est trop dur, le monde est trop tentant. Non, le Seigneur a dit, je serai avec toi. Je te préserverai de toute chute. Si vous demeurez en Christ, si vous restez près de lui, vous resterez pur. Même si vous devez fréquenter des milieux impurs. Regardez le Seigneur Jésus. Il a parlé avec des prostituées, il a parlé avec des publicains qui étaient connus pour leur mondanité absolue. Hein. C'était des gens qui vivaient dans la débauche. Et Jésus est allé vers eux et il n'a pas été souillé par eux. C'est lui, au contraire, qui les a purifiés. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire aussi. Aller vers les pécheurs, leur annoncer la bonne nouvelle du salut, de la délivrance. Si nous ne sommes pas des chrétiens incorruptibles, nous risquons de sombrer et d'être une honte pour le nom du Seigneur. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait peu de chrétiens en France. Si les chrétiens, les vrais chrétiens ne sont pas purs, comment les autres vont vouloir venir au Seigneur? Ils vont dire, ils sont comme nous et ils n'ont rien de plus. Que le Seigneur nous aide à prendre cette décision, à être incorruptible. Et ça se prend une chose après l'autre, une minute après l'autre. On ne dit pas « je vais être incorruptible jusqu'à la fin de mes jours », non. On dit « Seigneur, aujourd'hui ou maintenant, quand la tentation se présente, je vais la repousser, je vais dire non. » C'est Luther qui disait « quand le tentateur frappait à sa porte, il dit « je ne réponds jamais ». Quand il frappe, je ne réponds pas, je laisse Christ répondre. Et quand Christ répond au tentateur, il lui dit, « Ah, vous cherchez Luther, il n'est plus là, il n'habite plus ici. » C'est une façon enfantine, hein, on peut dire, de dire, quand la tentation vient, je ne cherche pas à lutter. Parce que plus vous luttez, plus vous risquez de tomber dedans. Adam et Ève ont chuté parce qu'ils étaient près de cet arbre. Ils se sont rapprochés, ils étaient tout le temps là à dire « Pourquoi il nous l'a interdit? Il a l'air bien. » Et près de l'arbre, il y avait le serpent qui les a amenés à pécher. Le chrétien fuit la tentation. Un homme marié ne va pas fréquenter des femmes célibataires en dehors de son épouse impunément. Il doit se protéger. Voilà. Je vous présenterai ma femme, n'est-ce pas? En général, ça coupe court à toute ambiguïté. on fuit la tentation et on envoie le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on peut vaincre. Et c'est comme ça que des chrétiens, hommes et femmes, ont eu une vie qui compte. Une vie qui a influencé les autres, qui a marqué leur temps parce qu'ils étaient près du Seigneur, ils étaient purs. On va terminer par la prière.